Chapitre 5. La connaissance se mûrit en amitié. Renseignements utiles de toutes sortes. Une excellente méthode pour parler français avec peu de peine et sûreté de réussite. Un collectionneur. Une salle de vente. Un père du royaume. La visite de Miss Morrison, qui ne se fit pas attendre, fut longue et confidentielle. Mistress Barnaby lui expliqua avec beaucoup de condescendance et avec force détail que la position où elle se trouvait faisait d'elle l'amie la plus précieuse du monde et la personne la mieux faite pour assurer le bonheur d'un homme, pourvu qu'il fût riche et d'un rang élevé. Mais ces dernières particularités furent communiquées à Miss Morrison sur le sceau du secret, en la priant de les garder absolument pour elle. En échange, cette demoiselle communiqua à la veuve une nomenclature raisonnée de tous les hommes bien placés, épousables, qui se trouvaient en ce moment à Cheltenham, en l'accompagnant d'un rapport des plus détaillés sur leurs titres de rente et sur les espérances qu'ils pouvaient concevoir, avec une minutie que les questions les plus opiniâtres eussent rarement pu obtenir. Mais il serait superflu de raconter cette partie de la conversation où l'on s'occupa de plusieurs beaux gentlemen qui ne prirent point une grande importance dans la vie de Mistress Barnaby, ce récit ne pouvant être d'aucune utilité à ceux qui étudient le caractère et les aventures de cette dame. Toutefois, il y eut dans cette conférence d'autres points passés en revue qui eurent des résultats productifs et immédiats. Par exemple, la détermination d'assister aux ventes publiques, qui, précédées parfois d'une agréable musique et animées toujours par la plus élégante conversation, attiraient le beau monde de Cheltenham pendant plusieurs heures du jour. « Votre description est ravissante, Miss Morrison !» s'écria la veuve tout excitée. « Il me semble presque y être déjà, et j'irai constamment, vous pouvez bien en être sûre, Miss Morrison !» J'ai là ma nièce, vous savez, cette petite fille que vous avez vue à déjeuner. Croyez-vous que je doive lui faire laisser ses leçons, ses livres et tout le reste pour venir perdre son temps aux ventes? Oh mon Dieu, elle est si enfant que je crois en vérité que ce qu'elle a de mieux à faire, c'est encore de se faire voir. J'ai en doute pas, répliqua Miss Morrison, car elle est divinement belle. C'est une beauté parfaite, comme on dit à Paris, et j'ai la conviction que si vous voulez venir à la mode à Cheltenham, ce que vous avez de mieux à faire est de la montrer tous les jours et tout le long du jour. Cette figure et cette tournure-là ne peuvent manquer de plaire, c'est clair. Mistress Barnaby tomba dans une rêverie de quelques minutes. Qu'elle désirât devenir la lionne de Cheltenham, ce n'était pas douteux. Mais que la beauté d'Agnès fut l'unique moyen d'arriver à son but, ce n'était plus tout à fait son affaire. Elle avait bien espéré obtenir ce résultat par sa propre beauté, par ses propres talents, mais elle n'était pourtant pas absolument insensible à l'avantage évident d'avoir deux cordes à son arc. Et comme l'ambition positive qu'elle avait de devenir un personnage important était pour le moins aussi vive chez elle que l'orgueil d'être belle, le projet de mêler Agnès à ses plans de fascination et de conquête valait la peine d'être considéré. « Je songerai à cela, Miss Morrison, » répliqua-t-elle. « Il n'est pas nécessaire de décider ceci à la minute. »« Point de tout, » dit Miss Morrison. « J'aime toujours à tourner autour des choses, comme je dis, avant de prendre une décision. D'ailleurs, ma chère madame, il faut d'abord bien savoir quel est votre but principal. » Beaucoup dépend de cela. Si vous avez le désir d'être de toutes les réunions et d'être salué par des murmures d'admiration chaque fois que vous entrerez à la salle de bal ou aux ventes, je vous le dis, habillez la jeune personne de la manière la plus élégante et la plus attrayante possible et vous serez sûr du succès. Pas le mot moindre doute de cela. Mais si, d'un autre côté, votre but est de vous marier vous-même, c'est autre chose. Et vous devez agir tout différemment. Je vous comprends, ma chère Miss Morrison, je vous comprends parfaitement, répondit la veuve, très frappée par le sens profond et la clarté de conception de sa nouvelle amie. Je tâcherai avec la plus grande franchise de vous faire comprendre mes plans, car je sens que vous méritez toute ma confiance et que personne plus que vous n'est capable de me donner un bon conseil. La vérité est, Miss Morrison, que je voudrais me remarier. Ma fortune est certes bien assez belle pour me permettre tout le luxe désirable, mais un cœur veuf, ma chère Miss Morrison, un cœur veuf est un fardeau trop lourd à porter pour un naturel comme le mien, qui ne vit que pour les affections les plus tendres. Donc, je vous le disais, je désire me remarier. Mais Dieu lui-même m'interdit la faiblesse de contracter un mariage qui ne serait pas à la hauteur du rang que j'occupe dans la société, rang auquel j'ai droit aussi bien par la naissance que par la fortune. Et si les événements, au lieu de m'élever au-dessus de ma position actuelle, tendaient à me rabaisser, quels que puissent être mes sentiments, je ne me le permettrai jamais. Quoi et moi, vous avouez raison, chère dame, s'écria Miss Morrison. Les choses étant ainsi posées, reprit la veuve, il me paraît de toute évidence que ce qu'il y a de plus important, c'est d'entrer dans la bonne société, et si, pour atteindre ce but, je trouve qu'il est nécessaire de produire Agnès Willoughby, je le ferai certainement, surtout parce que son chant est encore bien plus remarquable que sa beauté. « Est-il possible ?» s'écria joyeusement Miss Morrison. « Mais alors, cher ami, il n'y a rien au monde qui puisse vous empêcher d'être recherché dans toutes les maisons élégantes de Cheltenham. Une fille laide qui chante bien peut aisément se faire inviter n'importe où. Mais une belle personne, avec un talent semblable, peut non seulement aller partout elle-même, mais encore amener avec elle autant d'amis qu'elle voudra. « Vraiment, » dit Mrs. Barnaby, devenue songeuse. « Ceci est un grand avantage. Et vous êtes sûre, Miss Morrison, que si je me décide à la produire, il en sera ainsi ?»« Oh oui !» répondit son amie en confidence. « C'est un fait certain. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Et si vous le voulez bien, je suis toute prête à parier avec vous 5 guinées, au jeu ou autrement, que si vous vous arrangez de façon à la faire voir et à la faire entendre une fois, vous aurez, avant la fin de la semaine, votre table couverte de cartes de visite, n'en doutez pas. » Bon, cela vaut la peine d'y réfléchir, Miss Morrison, mais j'aimerais, je crois, aller une première fois sans elle dans ces endroits si foulés dont vous me parliez à l'instant. Seulement pour voir, c'est-à-dire si vous vouliez être assez aimable pour y venir avec moi. « Certainement, je veux bien, » répondit Miss Morrison, « avec le plus grand plaisir. Si nous allions à la salle des ventes ce matin. Aujourd'hui, il y a une grande variété de choses belles et utiles à vendre, et comme on y va toujours pour ne rien acheter, vous feriez bien de pousser un peu l'enchère, cela donne du genre. » « Et doit certainement attirer l'attention, » reprit vivement Mrs. Barnaby. « Vous avez certainement raison. » C'est ça. Et nous n'avons que juste le temps pour nous apprêter. Tous nos messieurs vont être là, vous pouvez bien en être sûr. Et peut-être quelques-uns d'entre eux viendront-ils se joindre à nous, ce qui serait fort avantageux, vous savez, car il n'y a rien de si fâcheux pour les femmes que de ne pas avoir d'hommes avec elles. On n'a l'air de rien. Quant au mariage, je n'y songe pas pour moi-même. J'ai pris mon parti. Mais je vous assure que je déteste d'aller quelque part où je n'ai pas la chance qu'un homme vienne causer avec moi. Mais il faut mettre mon chapeau. Au revoir. » Cette fois, Mrs. Barnaby fut bien obligée de confesser qu'elle ne la comprenait pas. « Il est bien certain que je sais parfaitement le français, » dit-elle, « mais comme je n'ai jamais été dans le pays et que j'ai peu l'habitude de parler cette langue, même chez moi, je ne puis pas toujours vous suivre. » « Je donnerai beaucoup, Miss Morrison, pour parler français aussi admirablement que vous. » « C'est un grand avantage en société, certainement, » répliqua Miss Morrison avec modestie. « Mais je vous affirme que personne au monde ne pourrait parler comme moi sans avoir été dans le pays, et encore, faudrait-il avoir pris la peine incessante que j'ai prise. Car, voyez-vous, apprendre une langue avec des livres, c'est une absurdité, il n'y faut pas penser. » Comment serait-il possible, je vous le demande, d'attraper l'accent, la vraie prononciation? Mais je dois dire que peu de gens, je le crois, n'aurait jamais appris en aussi peu de temps que moi. J'ai inventé pour moi-même une méthode sans laquelle je n'aurais jamais pu arriver à parler comme je le fais. J'avais toujours à la main un papier et un crayon, et presque chaque mot que j'entendais prononcer, je l'écrivais immédiatement, à ma manière, mais de façon à pouvoir le lire toute seule, sans rien demander à personne. J'arrivais aisément ensuite à me faire donner l'anglais de tous ces mots, car presque tout le monde me comprenait, surtout les Anglais, quand je relisais mes notes, écrites selon ma manière d'épeler. J'écrivais ces traductions vis-à-vis des mots français. C'est ce que j'appelle avoir fait tout à la fois une grammaire et un dictionnaire entièrement de mon invention. Et j'en ai eu bien souvent des compliments. Allez! Mais il me semble que vous les avez bien mérités. De ma vie, je n'ai entendu parler d'une chose aussi intelligente, répondit Miss Rizarnabé. Et quand partons-nous pour notre promenade? Tout de suite, si vous voulez. Je vais aller mettre mon chapeau. C'était ce que je vous disais en français. Il faut mettre mon chapeau. Miss Barnaby s'en alla donc procéder à sa toilette, et quand elle eut réussi à se faire aussi splendidement belle que possible, elle se retourna vers Agnès, qui écrivait toujours dans son coin noir. Vous devriez bien finir ce que vous faites, Agnès. Enfin, j'espère que cela vous fera faire quelques progrès. Je sors pour affaires avec Miss Morrison, et si la soirée est belle, je vous ferai faire un tour d'un côté ou d'un autre. Agnès bénit encore une fois la rencontre qu'elles avaient faite de cette nouvelle et précieuse amie et vit avec une vive reconnaissance disparaître le satin et les plumes de sa tante en pensant qu'on lui épargnait la nécessité de les accompagner. En quittant Mrs. Barnaby, M. Alexandre Pringle était allé faire sa visite à sa bonne amie et cliente Lady Elizabeth Norris, la tante du colonel Hubert, qui venait passer quelques semaines de la saison à Cheltenham chaque année, aussi bien pour renouveler l'entrain de son humeur par la variété de sociétés qu'elle y trouvait, que pour l'avantage de prendre tous les jours un verre d'eau à la source de cet endroit. Le digne médecin était aussi utile par les renseignements et les cancans qu'il fournissait sur cette société que par ses conseils sur la cure à suivre. Invariablement, le lendemain de son arrivée, sa seigneurie le faisait appeler, même quand l'état de sa santé était parfait, et de plus, lui donnait à entendre qu'elle désirait voir ses visites médicales se répéter 3 fois par semaine pendant la durée de son séjour à Cheltenham. Cette fois, il trouva la vieille dame toute seule, car Sir Edward et Lady Stephenson, qui étaient ses hôtes, étaient en train de faire une de leurs expéditions matinales favorites. Ils exploraient les magnifiques environs de la ville. « Eh bien, Pringle, vous voilà donc enfin, hein ?» dit Lady Elizabeth. « Justement, je vous attendais. Les Stephenson sont dehors, encore envolés jusqu'au bout du monde à la recherche de fleurs sauvages et de sentimentalité conjugale, me laissant à mes propres pensées, privilège dont je me soucie peu, pour ne point dire pas du tout, à moins que vous ne veniez ajouter quelque chose de nouveau à ma liste pour mercredi. » « Peut-être pourrais-je bien venir en aide à votre seigneurie, » lui répondit son Esculape. « C'est-à-dire à la condition que Lady Stephenson n'en saura rien, car je crains qu'elle ne m'ait pas encore pardonné de vous avoir présenté M. Myrtle et les 2 demoiselles Tompkins. »« Quel tissu d'absurdité, dites-vous là ! Maintenant qu'elle est mariée et hors de cause, que peut lui faire le genre d'animaux que j'introduis dans ma ménagerie ?» Mais je crois, Pringle, que vous n'êtes plus l'habile chercheur de truffes que j'ai connu. Y a-t-il assez longtemps que vous ne m'avez conté quelque chose de neuf ? Sur ma parole, Milady, ce n'est pas ma faute, reprit le médecin en riant. Jamais je ne vois ni n'entends rien au dehors sans le mettre de côté dans ma mémoire pour le service de votre seigneurie, et je viens en ce moment tout exprès pour vous signaler une nouvelle arrivée à l'hôtel qui ne laisse pas de promettre beaucoup. « Tant mieux. Est-ce de l'espèce mâle ou de l'espèce femelle ?»« Femelle, Milady, et elles sont 2. »« De la même espèce, de la même race ?»« Oh, pas du tout, mais le contraste produit un très agréable effet. Et de plus, quoiqu'amusantes au plus haut degré, elles sont très comme il faut. j'ai cru comprendre que la plus âgée est la sœur de M. Peter de Clifton. » M. Pringle se mit alors à décrire sa visite chez Mistress Mardabé. Il rendit justice au genre fleuri de sa beauté, de sa toilette et de sa conversation. Mais quand il en vint à parler de la jeune personne vouée aux noix et de la résolution opiniâtre qu'avait prise sa tante de lui faire boire les eaux, la traitant en malade, malgré le parfait état de sa santé, la vieille dame s'écria avec exaltation et en se frottant les mains « Parfait, admirable, vous êtes un charmant homme, Pringle. Vous avez flairé cela, on ne peut mieux. Eh bien, mon cher, je l'ai vu ce matin à la source, votre délicieuse veuve. Du rouge, des boucles et tout le Bataclan. Je l'ai vu goûter aux eaux et prendre le mal de cœur. Et maintenant, comme il lui faut une raison pour se montrer à la fontaine, elle veut que cette pauvre fille boive pour elle. Étonnante créature! Je comprends tout. Pauvre petite! Et alors, la veuve est en quête de connaissances, n'est-ce pas? Je m'offre. Mon salon lui est ouvert, Pringle. Seulement, comment dois-je m'y prendre pour lui être présentée? Oh, ce ne sera pas bien difficile, Lady Elizabeth. Je puis vous affirmer que Mistress Barnaby sera visible partout où les dames et les gentlemen se rassemblent. Au bal, par exemple, demain soir. Votre seigneurie est-elle dans l'intention d'y aller? Certainement. Et si elle y est, je m'arrangerai de façon à me présenter, avec ou sans intervention, afin que cette pivoine épanouie puisse paraître à mon exposition de mercredi prochain. Tandis que, dans une partie de la ville, le sort ainsi que M. Pringle travaillait à mettre Mistress Barnaby en évidence, elle-même s'exerçait de son mieux à obtenir le même résultat dans un autre quartier. La salle de vente, à laquelle l'expérimentée Miss Morrison la conduisait, était déjà remplie quand elles y entrèrent. Mais la petite difficulté qu'elles éprouvèrent à se procurer des sièges leur fut plutôt favorable qu'autrement. Et, comme pour faire ressortir la sagacité de cette demoiselle, ainsi que celle de ses pronostics, deux des messieurs de leur table d'hôte, non seulement leur firent de la place, mais se montrèrent fort disposés à leur rendre tous les petits services dont elles pourraient avoir besoin. « Monsieur Griffith, si je ne me trompe, » dit Miss Morrison en saluant l'un de ces messieurs. « Votre santé a été bonne, monsieur, depuis que nous ne nous sommes trouvés ici l'année dernière. Mistress Barnaby, permettez-moi de vous présenter Monsieur Griffith. » « Je suis très heureux, madame, de faire votre connaissance, » dit le gentleman en saluant très bas. « Votre jeune ami, que j'ai vu ce matin avec vous, n'est pas ici, je crois ?»« Non, monsieur, » répliqua Mistress Barnaby du ton le plus aimable. « La chère enfant est restée à la maison où elle poursuit ses études. »« Présentez-moi, Griffith, » murmura son compagnon. « Monsieur Patterson, Mistress Barnaby. »« Monsieur Patterson, Miss Morrison. » Et il sembla s'établir immédiatement entre eux une charmante intimité. « Oh, quel vase ravissant !» s'écria Mistress Barnaby. « Et quelle élégante garniture de chandelier !» s'écria Miss Morrison au moment où le commissaire priseur plaçait en avant les articles pour lesquels il attendait des ordres. L'admiration qu'excitaient ces articles donnait lieu à une telle variété d'intéressantes observations sur la plupart des gens présents et sur toutes les marchandises exposées devant Mistress Barnaby et sa société, que la veuve, fortement animée, laissait échapper des appréciations assez énergiques pour que plus d'un lorgnon fût braqué sur elle, fournissant ainsi un exemple de cette réciprocité, toujours curieuse à suivre, qui s'établit entre la cause et les faits. Plus on regardait Mistress Barnaby, plus elle riait et parlait haut, et plus elle riait et parlait haut, plus on la regardait. Flattée, transportée, ravie au-delà de toute expression, elle laissait errer ses yeux dans toutes les parties de la salle, sans qu'un point les attirât plus qu'un autre. À la fin, son attention se trouva sollicitée par le regard que dardait sur elle un individu qui faisait partie d'un groupe de gentlemen placé à quelque distance d'elle et lui faisant presque face. « Pourriez-vous me dire, monsieur, quel est ce gentleman grand et fort, dont l'habit est tout couvert de galons et de passementeries, celui qui regarde par ici avec un lorgnon ?»« Le monsieur qui a des cheveux rouges, répondit M. Patterson, à qui s'adressait la question.
Oui, celui qui a les cheveux un peu roux, mais un très bel homme.
C'est Lord Mucklebury, Mistress Barnaby. C'est un grand amateur de beauté. Et, sur ma parole, il paraît être terriblement préoccupé de quelque objet dans cette partie de la salle. La vue de la terre est délicieuse après une longue traversée. Le repos après le travail, un bon repas après le jeûne, sont choses délicieuses. Eh bien, il est permis de douter qu'aucune de ces joies puisse entrer en comparaison avec l'émotion qui, en ce moment, gonfla le sein de Mistress Barnaby. En rappelant ses meilleurs souvenirs, c'était la première fois qu'elle était remarquée par un lord. Et comment ? Ce n'était pas par un regard passager d'une signification légère, fixé d'abord sur une beauté, puis sur une autre. C'était un de ces regards fermes, directs, prolongés, que rien ne faisait reculer. Un regard enfin sous lequel bien des femmes auraient quitté la salle, mais qui faisait palpiter le cœur de Mistress Barnaby à un point qu'elle n'avait jamais connu encore. Non, pas même dans les jours d'autrefois, alors que le plus admiré des officiers d'un nouveau bataillon fixait sur elle son premier regard et s'avançait sous les yeux des autres jeunes filles pour l'inviter à danser, car jamais aucun lord n'avait fait rien de semblable. De sorte que la plénitude de sa joie nouvellement née, se mélangeant à la vigoureuse maturité de son âge mûr, faisait briller sur sa figure le premier éclat de la jeunesse. On aurait pu dire de Mistress Barnaby en ce moment que, comme Mistress Malaprop et son oranger, elle portait tout à la fois et les fleurs et les fruits. Une preuve de la juvénile fraîcheur de son émotion fut la très naïve manière dont elle se trahit. Elle ne pouvait rester en place, elle levait et baissait les yeux, elle tournait la tête dans tous les sens, elle ouvrait son éventail et le refermait, et il aurait fallu que l'heureux auteur de tout ce trouble eût eu moins d'expérience que Lord Mucklebury pour ne pas s'apercevoir de l'effet que produisait et lui-même et son lorgnon. Si en ce moment Mistress Barnaby avait pu se douter de quel genre était l'influence de la présence de Miss Morrison sur le lord, elle aurait voulu la voir à mille toises au fond de la mer. Il était bien positif que la manière bien connue de la vieille fille de railler l'honorabilité inattaquable de Cheltenham empêchait seule le noble lord, passant par-dessus la cérémonie d'une introduction, de traverser la salle pour venir lier conversation avec cette femme sensible dont les yeux brillants et le rouge éclatant avaient attiré son attention. N'y pouvant rien, cependant, il pensa que ce qu'il avait de mieux à faire était de se tourner vers son utile ami, le capitaine Singleton, en lui disant d'une façon familière qui compensait le ton impérieux « Singleton, allez savoir ce que c'est que cette grande femme en satin vert et en plume rose. Vous serez bien aimable. » Mistress Barnaby n'entendit pas les mots, mais elle vit donner la commission aussi clairement que Mylord Mucklebury la voyait, elle. Son cœur se mit à battre si violemment qu'il ne lui restait plus assez de souffle pour réclamer la sympathie de son ami au sujet d'événements aussi intéressants. Toutefois, bien qu'elle sût à peine où elle était, ni ce qu'elle faisait, elle garda pourtant assez de présence d'esprit pour voir que l'obéissante envoyée s'adressait, et hélas en vain, d'abord au premier badaud qui lui tombait sous la main, puis à un autre, qui tous répondaient par un mouvement de tête dont l'évidente signification était « Je ne sais pas ». « Grand Dieu, est-ce assez agaçant ?» murmura Mistress Barnaby, tout en pressant sur son cœur, afin d'en contenir les battements, sa main délicatement gantée. « Il quittera la salle sans avoir pu savoir mon nom. » Si sa connaissance avec M. Patterson avait daté de quelques heures de plus, il est extrêmement probable qu'elle l'eût prié d'avoir seulement la bonté de dire au petit monsieur en noir qu'elle s'appelait Barnaby. Mais, quoique fort poli, M. Patterson était un peu cérémonieux, et le messager malheureux, par un seul mouvement de tête qui, à lui seul, résumait tous ceux qu'il avait reçus, revenait délivrer la fatale réponse à son seigneur avant qu'elle n'eût pu prendre un parti. Cependant, le noble personnage que ce manège amusait continua pendant quelque temps encore à fasciner sa beauté. Puis, faisant signe de l'œil à Singleton que son bon plaisir était de s'en aller, l'actif Sigisbée se mit en devoir d'écarter la foule devant son lord,
et le gros vicomte, les mains dans les poches de son gilet, se dirigea fièrement vers la sortie, mais non sans avoir retourné la tête pour lancer à la veuve tout émue un dernier coup d'œil, le coup d'œil ferme et hardi d'un œil largement ouvert. « Cet homme est ma destinée » murmura-t-elle au fond de son âme, au moment où disparaissait à ses yeux la dernière olive des passementeries qui ornait le dos du vêtement du lord, et à partir de cet instant, Mistress Barnabé, comme la sensible belle de jour qui se penche et se fane lorsque le soleil, après l'avoir inondée de ses rayons, la quitte, Mistress Barnabé ressembla plutôt au portrait d'elle-même qu'à Mistress Barnabé en personne.
« Ne trouvez-vous pas qu'on étouffe ici, Miss Morrison ?» dit-elle, après avoir enduré une minute de cette sorte de vide qui semblait peser sur ses sens.
« Point de tout !» répliqua Miss Morrison en parlant du nez, méthode qu'elle prenait lorsqu'elle voulait rendre l'accent parisien avec une pureté parfaite.
« Point de tout, Mistress Barnabé. Toutefois, si vous voulez vous en aller, je suis tout à votre disposition, car je pense ne rien acheter ce matin, et je ne vois guère de personne de connaissance ici. »
Mistress Barnabé se leva immédiatement. Les deux messieurs, fort poliment, leur firent de la place, et la veuve, suivie de son amie, sortit de la salle plus pensive, pour ne pas dire plus malheureuse, que lorsqu'elle y était entrée.